Donc on passe maintenant la parole pour le séminaire à Albert Beviste, ici, et Thierry Gauthier, ici, qui nous viennent de Rennes, où ils développent depuis à peu près, juste un peu après SRL, mais ça n'a aucune importance parce qu'on ne se connaissait pas encore, le langage signal, qui est le troisième larron de la généalogie des langages français, avec SRL et Lustre, et on a beaucoup travaillé ensemble, avec beaucoup de combats et beaucoup d'amitié. Ouais. Et ils vont nous raconter qu'est-ce qui s'est passé et qui se passe toujours autour de Signal.
Bien. Donc, en fait, ce que je voudrais plutôt expliquer ici, parce que Signal a un positionnement un petit peu hétérodoxe dans la famille des langages synchrones. Et donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est essentiellement les principes importants et les choix qu'on a faits et comment on peut se servir des principes sur lesquels on a fondé le langage pour éventuellement aller plus loin dans des directions qui ne sont pas implémentées aujourd'hui dans l'outil polychronique qui existe. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est précisément de situer un peu Signal dans les trois langages synchrones d'origine, et d'expliquer un petit peu la différence un peu dans les caractéristiques et dans les objectifs aussi qui étaient initialement fixés. Donc, je commence par Lustre. Donc, vous avez les développements qui sont un peu reliés. Je me suis permis d'ajouter Zelus. Je ne sais pas si cette année, Marc a fait une présentation, mais il y a eu des présentations de Zelus il y a 2 ans. Qui est l'extension au système hybride, à la classe de langage de type Simulink de Lustre. Et l'avatar principal est l'outil industriel SCADE, donc, qui est industriellement un succès intéressant et réellement beaucoup utilisé. Donc, quelles sont les caractéristiques de Lustre ? Eh bien, c'était un peu les choix d'origine de Paul Caspi qui ont conduit à ça. Donc, l'idée de Paul, c'était essentiellement, Paul et Nicolas Alvax, c'était de définir un langage de spécification qui soit adapté au mode de pensée des automaticiens, d'où l'idée d'une orientation bloc-diagramme, qui est aussi celle de Simulink. Mais d'avoir quelque chose qui soit le plus simple possible. À chaque fois qu'il y a eu des choix à faire, Paul Caspi et Nicolas ont toujours favorisé la simplicité. Et le point de vue essentiel, c'est qu'il s'agit d'un langage fonctionnel et que la composition parallèle dans ce cadre-là, c'est la composition de fonctions de suite au sens des réseaux de Cannes, c'est-à-dire qu'on cherche à résoudre des équations de points fixes sur des suites de valeurs et que ça se fait par la méthode de Dataflow inventée par Cannes au milieu des années 70. Donc, le concept est simple. Un point important, c'est qu'on ne peut exécuter des programmes que s'il n'y a pas de boucles instantanées ne comportant pas de délai. Et comme le langage est fonctionnel et simple dans ses principes, eh bien, précisément, Marc a pu développer une extension dynamique, un certain type de dynamicité, qui permet de créer dynamiquement donc, des processus, ce qui est un peu unique dans le cadre, dans la famille des langages synchrones. Alors, il y avait une chose qui existe dans Lustre. Les signaux sont typés par des horloges, c'est-à-dire on explique quand est-ce qu'ils sont définis et quand est-ce qu'ils ne sont pas définis. Cette notion d'horloge de présence-absence est traitée par un système de type et qui est fournie par des vérifications, donc qui est traitée en vérification, le typage est vérifié. Un programme est accepté ou rejeté s'il est correct de ce point de vue. Et j'ai mis ça entre parenthèses pour une raison que je vous expliquerai après. Donc, Esterel, je suis content parce que j'ai trouvé Abro en italien. Donc j'étais content pour ça. Vous avez là aussi ceux que j'ai pu considérer comme les petits. Le web, c'est le travail que fait Gérard en ce moment ou les dernières années pour l'extension de ses principes au web. Là, la nature est profondément différente, hein, vous voyez les cours, donc un langage impératif ou une famille de langages impératifs qui s'occupe d'assigner des valeurs à des variables, évaluer des expressions et passer du contrôle de manière riche, donc avec ces instructions-là. Et la vraie difficulté, le cœur de la difficulté d'Esterel, c'est la combinaison de la composition parallèle et du passage de contrôle instantané. Je pense que c'est ça qui est vraiment un des points difficiles et fins dans le langage. Une réaction pour Esterel, c'est du coup un problème de point fixe à cause de ce problème-là. Et j'ai mis le 1 en rouge parce que c'est le seul cas donc, qui a intéressé les concepteurs d'Esterel. Ils n'ont pas considéré des programmes qui seraient non déterministes de spécification, ça aurait pu être fait, ou des programmes qui bloquent. Seuls les programmes qui ont une unique solution, qui sont donc d'exécution déterministe, sont considérés comme ayant une sémantique. Alors, signal là-dedans. Bon, la première chose, ça c'était vraiment ce que je dis là, c'est vraiment les idées de Paul Le Guernic, hein, qui n'a jamais été quelqu'un de très clair ni pédagogue, mais qui avait une vision extrêmement profonde de ce qu'il voulait faire. Et donc, Paul a toujours eu en tête de s'intéresser aux architectures et aux systèmes ouverts. C'est-à-dire, un système n'est jamais terminé, il est toujours susceptible d'être inséré dans un contexte. Et ça a un certain nombre de conséquences. Les problèmes de synchronisation, du coup, deviennent plus importants, j'expliquerai pourquoi. Et du coup, les horloges passent au premier plan en tant que concept du langage. En signal, on a couramment, même pour des programmes pas forcément très gros, écrit des programmes avec un grand nombre d'horloges. Hein, donc des milliers d'horloges, c'est des choses qu'on a eues couramment. Et la conséquence immédiate, c'est que contrairement à ce qui était fait dans Lustre, il n'était pas question de laisser au programmeur la responsabilité de typer du point de vue de ses horloges ses signaux correctement. Hein, c'était juste hors d'atteinte. Et par conséquent, d'emblée, on avait décidé en signal que la synchronisation ne serait pas vérifiée, mais synthétisée. Hein, donc, du coup, le système de type devient traité par une méthode de synthèse. Alors, en faveur de cet argument, de ce choix-là, il faut savoir que l'histoire a prouvé depuis que dans SCED, les horloges au sens de lustre en tant que type ne sont plus guère utilisées, elles ne sont pas recommandées. Elles ont été supplantées par les conditions d'activation, donc qui dit quand est-ce qu'il faut faire un calcul, et les condacts ne sont pas un système de type. C'est-à-dire des condacts peuvent être en quelque sorte non adéquates, mais le programme est accepté quand même, et le report de la correction est reporté au niveau d'activité de vérification. Donc ça, c'est un choix de conception. Les différents points de vue ont des avantages et des inconvénients. Mais c'est intéressant de voir qu'on avait vraiment des points de vue et des principes et des objectifs différents. Donc, qu'est-ce qui caractérise signal ? En fait, un programme signal, c'est des équations d'horloge. Du coup, les horloges ne sont plus définies de manière fonctionnelle, mais le sont de manière relationnelle par des systèmes de contraintes. Et le langage est hybride parce que du point de vue des données, ça reste des expressions flot de données d'inspiration fonctionnelle. Donc, on admet du non-déterminisme à cause de ce point de vue-là, c'est-à-dire comme on traite pleinement des systèmes d'équations, ben, ces équations peuvent avoir zéro, une solution ou une infinité, enfin, ou plusieurs solutions. Donc, le non-déterminisme est admis en signal, mais il est contrôlé, c'est-à-dire qu'on sait caractériser un programme déterministe et on sait utiliser un programme non déterministe et le placer dans un contexte qui va le déterminiser. Comment on s'intéresse à des systèmes ouverts ? Eh bien, on a immédiatement choisi de considérer tout système comme étant, alors je ne sais pas comment on dit stuttering invariant en français, autorisé à dormir, on va traduire ça, hein, c'est-à-dire que tout système, à n'importe quelle réaction, est autorisé à ne rien faire. Il a toujours cette option par défaut. Et pourquoi il a toujours cette possibilité ? Eh bien, parce que peut-être, pendant que lui ne fait rien, quelqu'un d'autre fera quelque chose dans un contexte que nous ne connaissons pas encore. Donc, c'est un point de vue qui est orienté explicitement pour traiter les architectures et les systèmes ouverts, qui était l'objectif qui intéressait Paul. Bon, la difficulté centrale dans Signal, hein, comme dans Esterel, il y a une difficulté qui est centrale, c'est l'interaction en matière de causalité entre les horloges et les données. Voilà. Donc voilà un peu le positionnement relatif. Après, si vous voulez qu'on pose des questions, on pourra discuter des inconvénients et des avantages. Hein. Il y a des avantages et des faiblesses de chacun des points de vue relatifs de ces trois langages. Donc voilà, j'ai traité le premier point. Et comme toujours, quand je fais un exposé, j'ai la montre signal, qui est une montre mécanique, hein, qui est donc beaucoup plus humble que la montre que Gérard programmait en Estérel au départ. Mais on va voir que c'est un exemple intéressant. Donc, la voilà. Et je ne vous donne pas son code signal pour commencer, mais je donne un espèce de pseudo-code peut-être plus intuitif en vous disant, avec un petit commentaire en plus, qu'est-ce que fait cette montre ? Eh bien, cette montre, elle a un stock de secondes qu'elle est capable de réaliser. Et ce stock de secondes, il est essentiellement décrémenté à chaque pas de temps. À ceci près que de temps en temps, eh bien, le ressort est remonté par un nombre de tours qui est décidé par celui qui fournit, qui fait l'intervention. Et ça, on le fait quand la montre, eh bien, le ressort n'a plus d'énergie. C'est-à-dire quand, quand la montre s'arrête, eh bien, c'est le moment où on est appelé à la remonter. D'accord ? Donc on voit bien un peu ce que veut dire cette expression qui ressemble un peu à du Zélus. Hein. C'est-à-dire on a une dynamique qui est remise à zéro par une valeur qui nous vient de l'extérieur, et ceci a lieu quand un certain événement intervient. Et ce que ne vous dit pas cette expression-là, c'est ce que j'ai écrit en dessous, c'est que l'entrée, le stimulus d'entrée, est fourni uniquement quand on en a besoin. Donc c'est de la consommation d'entrée à la demande, ce qui n'est pas un principe de consommation réactive des entrées comme les autres langages synchrones. C'est aussi une différence en signal, c'est qu'on peut faire de la consommation d'entrée à la demande. Du coup, ce n'est pas très clair que X soit réellement une entrée, on verra ça plus précisément. Voilà le code signal. Donc le code signal, il est donné par un système d'équations. Ça, c'est traduit ici. Pardon. Ça, c'est la deuxième équation qui vous dit que ici, on a grosso modo, en général, quelque chose qui décrémente. Hein. On a cette quantité-là, Zx, qui est la valeur passée, le prêt en signal est noté comme ça, hein, time is money. Et ce qu'on dit par la première instruction, c'est que quand l'entrée est fournie, c'est elle qui préempte et qui fournit sa valeur à x. Et sinon, lorsque x est changé de valeur, eh bien, il prend la valeur passée, c'est-à-dire le prêt qui est là, décrémenté de 1, comme ici. Hein, donc vous voyez ça. Et la phrase informelle que j'avais rajoutée en dessous, elle est formalisée en signal par cette équation de synchronisation, qui est une contrainte, entre l'horloge de l'entrée i et ce prédicat, c'est-à-dire dès que zx devient négatif, on le fait. Quand zx devient négatif, on le fait. D'accord ? Donc c'est une contrainte d'égalité d'horloge. Ça, c'est une condition qui donne un tic d'horloge lorsque le booléen qui est ici, qui est un prédicat, est vrai. Et autrement, cette quantité-là est absente. Et ce qu'on dit par le chapeau égal, c'est que ces deux horloges doivent être égales. Hein ? Quel est le problème ? C'est une contrainte. Je dis bien que signal n'est pas un langage fonctionnel. Hein ? Ce que je vous avais expliqué au début. Il faut verbaliser la question s'il y a une question. Bon. D'accord, on verra après. Donc, voilà comment se présentent les équations signal. Donc, vous avez ici une fonction de suite. Les deux premiers sont des fonctions de suite. Et ici, on a une contrainte d'horloge. Alors voilà un peu ce que fait ce programme, voici un peu. Donc au début, on démarre avec une montre à plat. Hein. Puisque la montre est à plat, eh bien, on nous dit qu'il faut consommer, la montre était endormie, donc il faut redonner des tours de remonter le ressort, on donne une entrée, et l'entrée est décrémentée à chaque fois jusqu'à aboutir à zéro, et on redonne une nouvelle entrée, et ainsi de suite. Donc, ce que vous pouvez constater ici, c'est que le statut de l'entrée in est schizophrène au sens où son horloge n'est pas une entrée, puisque son horloge, c'est quelque chose qui est calculé en interne par le programme, et que lorsqu'on sait qu'il est présent, la valeur qui est fournie est une entrée. Donc c'est un statut hybride. Donc ça fait de l'activation à la demande, de la lecture d'entrée à la demande. Voilà. Donc, et c'est ce mécanisme-là, cette capacité de faire des lectures d'entrée à la demande, qui donne à Signal la capacité de suréchantillonner certaines horloges par rapport aux horloges de l'environnement. Et c'est une caractéristique un petit peu unique de Signal. Voilà. Donc, je vais brièvement vous passer les instructions primitives de Signal. Donc, ça, c'est l'extension aux suites comme en lustre d'une fonction instantanée. Et alors, ce qu'il y a de différent en Signal par rapport à lustre, c'est que j'ai mis un nombre arbitraire là, sur ce run de réactions où il ne se passe rien. L'instruction dort. Et elle peut dormir un nombre de fois arbitraire pendant lequel quelqu'un d'autre pourra bosser. Bon, évidemment, une fois qu'on a un système firmé et que tout est fini, ça ne sert à rien de garder ces instants, il ne se passe rien. Mais tant que le système est ouvert, il joue un rôle. Ici, on a le retard. Alors, le retard, ça ressemble au pré de lustre. Vous avez une valeur, vous avez en sortie une condition initiale, puis après, on a lu une entrée. Et la première fois, dès qu'on reçoit une autre entrée, eh bien, on produit en X la valeur précédente. Donc, c'est exactement le pré de lustre. À ceci près qu'il est défini à l'horloge du signal Y. Et implicitement, vous voyez que, comme contrainte, on induit, comme pour la première équation, là, on avait la contrainte sur les horloges, que toutes les horloges étaient égales, on le voit ici sur la trace, et ici, le délai donne un signal retardé à l'horloge du signal d'origine. Donc, on a autant de retard, de longueur élastique, que vous avez de signaux d'horloge différentes. Voilà. Donc, voilà pour ce premier jeu d'instructions. Ici, vous avez une instruction qui permet de mélanger les signaux, de les fusionner, avec une priorité au premier. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est qu'à chaque fois que U est présent, eh bien, il est sorti avec la même valeur sur le fil de sortie. Et si, par hasard, V est présent, tout seul, alors il est sorti sur le fil de sortie. Là, vous voyez qu'il y avait une compétition et c'est le premier qui gagne, il y a une priorité. Ce n'est pas un mélange non déterministe, c'est un mélange avec priorité au premier. Ici, vous avez le filtrage qui ressemble, au point de vue syntaxe, au WEN de lustre, mais qui est différent au sens où ici, par contre, pour ces deux instructions-là, il n'y a aucune contrainte de synchronisation sur les horloges des signaux présents, des signaux d'entrée, pardon. U et V peuvent avoir des horloges arbitraires, n'ont pas de raison d'être à la même horloge. Et ici, même chose, Y et son booléen n'ont pas de raison d'être à la même horloge, contrairement au lustre. Et ici, ce que j'ai indiqué, c'est que les seuls cas où on sort X, avec la valeur de Y, bien sûr, c'est le cas où à la fois Y est présent et où B est présent avec la valeur vraie. Ici, vous pouvez avoir n'importe quoi, c'est pour ça que je n'ai rien mis, ça peut être présent, absent, avec n'importe quelle autre configuration, vous ne sortez rien. D'accord ? Voilà un peu les instructions donc, de signal. Et l'instruction donc, qui est particulière à signal, qui n'est plus quelque chose qui a une allure fonctionnelle, c'est la contrainte d'égalité d'horloge. Donc ça, c'est ce qui est unique à signal et qui fait que signal n'est plus un langage fonctionnel. Donc voilà, je vais étudier un petit peu ce programme-là et commencer par l'expanser un peu pour l'analyser plus facilement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai explicité toutes les contraintes d'horloge dont je vous ai parlé précédemment. Donc, X et ZX sont la même horloge. B, qui est l'évaluation, une condition sur ZX, a par définition la même horloge que ZX. Et puis, j'ai donné un nom par commodité à cette horloge-là parce que ça sera, en fait, mon horloge d'activation du programme a posteriori. Donc, par commodité, il m'arrivera de noter l'horloge des occurrences vraies de B par ce crochet B pour raccourcir. Donc, vous voyez que maintenant, on se trouve avec trois équations qui calculent sur des suites Et puis, des contraintes d'horloge, maintenant, j'en ai deux. Enfin, j'en ai deux paquets. Voilà. Donc, la première chose que je fais, c'est que je fais une analyse de causalité et il faut savoir bien la faire. Donc ça, c'est la particularité aussi de ce qui est fait en signal. C'est de faire une analyse de causalité de ce tas d'équations. C'est plus compliqué qu'en lustre parce que signal n'est pas fonctionnel, donc ce n'est pas juste un tri topologique. Donc là, il faut tirer donc, les dépendances des calculs, et ça, c'est relativement intuitif. Donc, vous voyez apparaître ici un contenu de mémoire comme ZX, bah, puisque c'est un contenu de mémoire, il n'a pas d'autres pairs, d'autres ancêtres, que le fait de savoir qu'il doit être activé. Donc ça, c'est important. Il y a quand même une dépendance entre l'horloge d'activation d'un contenu de mémoire et la mémoire elle-même. De même que Gérard avait aussi des mémoires pour activer ses registres. Donc ZX n'a rien d'autre. B, c'est l'évaluation d'un prédicat sur ZX, donc il y a cette flèche-là, et également il y a la dépendance de son horloge d'activation. Ici, à partir du moment où on connaît la valeur de B, on est capable de produire les occurrences vraies de B, et cette horloge-là est l'horloge de lecture de l'entrée, et donc il y a aussi une dépendance ici. Donc vous voyez qu'il y a dans ce graphe un mélange entre des dépendances de calcul et des dépendances de contrôle, hein, et on a absolument besoin de faire les deux de manière correcte. Alors en bas, vous avez ici la particularité de la technique d'analyse de programme signal, et qui est ce qu'on appelle la dépendance conditionnée, qui vous code la première équation, en vous disant que X dépend de l'entrée lorsque l'entrée est présente. C'est le défaut. Du moment que l'entrée est présente, c'est ça qui sert à calculer. Et sinon, il dépend de ZX, et il dépend de ZX à l'horloge qui est l'horloge d'absence de l'entrée. Donc vous voyez que ce n'est pas l'horloge top, il n'y a pas d'horloge top en signal, hein, il n'y a pas d'horloge toujours présente, mais c'est le complément de IN dans l'horloge globale. Donc, une fois qu'on a cette structure de données que le compilateur calcule, eh bien, on dispose tout de suite d'un interpréteur. Donc, je vais vous animer le programme. Hein. Je pense que je vais le faire un peu vite. Il n'y a rien de mystérieux. À ce stade-là, il y a deux cas de figure. Soit B est vrai et on termine comme ça. Donc, vous voyez que si B est vrai, je reviens un petit peu en arrière, si B est vrai, cette condition-là est fausse et donc cette dépendance n'est pas active. Et par contre, celle-là est validée. Donc voilà ce que j'ai fait. Et là, on peut terminer l'évaluation. Le deuxième cas de figure, c'est faux. Et donc, on termine de cette manière-là. Voilà. Donc vous avez un peu le schéma d'interprétation. Et ce schéma d'interprétation nous permet également d'ordonnancer statiquement les programmes signal pour produire de la compilation. Vous verrez ça après avec la démo de Thierry. Voilà. Donc, cette structure-là est évidemment importante et je vais regarder ça d'un peu plus près. Donc, la première chose que je vous montre, c'est que dans ce qu'on a, on a trois éléments ici pour analyser le code. On a en gros les actions de calcul qui sont ici, on a des contraintes d'horloge qui sont là, et on a ici des dépendances. Et donc, une particularité qu'on avait choisie dans Signal, c'est que tout ça est mélangé dans du code signal source. Donc, le code signal qui est écrit à gauche est une écriture en syntaxe textuelle du graphe qui est écrit à droite. Je vous laisse le temps de regarder. Donc, c'est le décortiquage, la liste branche à branche de ce dessin-là. Et donc, ceci, c'est une représentation interne qui sert de format intermédiaire dans Signal pour faire tout ce qu'on veut faire avec, hein, en particulier engendrer du code, mais pas seulement. Donc, voilà un peu la structure interne du code. Alors, j'ai fait une chose là que je vous montre ici, c'est qu'ici, on avait ce mélange-là. Et là, je l'ai éclaté en deux définitions partielles, hein, qui correspondent effectivement à une étape intermédiaire. Donc, vous voyez ici X qui apparaît dans le membre de gauche de deux définitions différentes. Apparemment, il y a un conflit, mais on a deux conditions exclusives et par conséquent, il n'y a pas de problème. Bon, justement, on va profiter de ce cas-là pour regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez les trois catégories. Et on va regarder ce qui se passe maintenant d'un peu plus près sur cette histoire d'analyse de causalité et de synchronisation. Donc, ce que cherche à faire le compilateur signal, c'est à produire par calcul ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'horloge, c'est-à-dire à produire cette structure qui prépare la fabrication des ifs imbriqués qui vont donner la structure du code à exécuter. Donc, je pense que c'est analogue à la compilation logicielle d'Esterel. Donc, vous avez ici les calculs et leurs dépendances qui sont effectués à l'horloge la plus rapide, et ici les calculs spécifiques aux deux cas qui sont exclusifs. Et vous voyez ici la double affectation de X, mais dans des cas qui sont disjoints, et par conséquent, il n'y a pas de problème particulier à avoir cette double définition. Par contre, si on avait écrit un programme de ce type, donc là, vous voyez que j'ai remplacé le note B par une autre condition, qui nous viendrait d'ailleurs. Alors, la conséquence, ça pourrait être de rejeter le programme, et la conséquence, c'est d'engendrer une obligation de preuve qui est d'être capable de prouver, quelque part en se servant des autres équations de synchronisation, que néanmoins, il n'y a pas d'instant commun à ces deux horloges. Donc ça crée une obligation de preuve qui est rajoutée aux équations de synchronisation. Si vous détectez des cycles apparents dans le programme, c'est le même genre de chose qui est créé. On crée des obligations de preuve qui sont rajoutées aux contraintes d'horloge. Voilà, donc ça, c'est, vous avez le résumé ici. Les équations d'horloge peuvent provenir du code, je vous ai montré, du code source, de l'élimination des conditions de course, ou bien de l'élimination des circuits de causalité. Évidemment, le compilateur doit vérifier que l'ensemble de ces contraintes est satisfaisable, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas uniquement un problème de satisfiabilité, il nous faut la structure de toutes les solutions et leur représentation explicite, c'est donc un peu plus que simplement la satisfiabilité qui est réalisée par le compilateur. Regardons un petit peu plus près le calcul de causalité, qui n'est pas très compliqué, donc c'est la partie verte. Et la partie verte, elle est entièrement régie par deux règles qui sont très simples, qui portent sur les algèbres de chemin de causalité. Si vous avez une dépendance de X vers Y à l'horloge H et une autre, pour une autre raison, à l'horloge K, alors vous induisez l'horloge union comme donnant cette dépendance de manière active. De la même manière, si vous avez une double définition une horloge H qui pourrait résulter de ce genre de conjonction ici, alors ça induit l'obligation de preuve comme quoi cette horloge est vide. Pour les séquences, si vous avez une dépendance de X vers Y puis une dépendance de Y vers Z, alors l'horloge de la dépendance de X vers Z transitive, c'est le E. Et si vous avez une boucle de X vers lui-même à l'horloge H, on a l'obligation de preuve comme quoi H est vide. Donc ça, c'est tout sur le calcul de causalité. Le chapeau, c'est pour distinguer, c'est l'égalité entre horloges. D'accord ? Donc il y a le chapeau attaché à l'inclusion, à l'égalité et au signe moins, puisqu'on n'a pas de complément, on a un complément dans un contexte. C'est juste pour distinguer ça de l'égalité ordinaire dans les équations. Un peu plus sur le calcul d'horloge. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc ce qu'on veut, c'est préparer la génération de code par des ifs imbriqués. Et on a cinq types d'équations d'horloge. Alors la première chose qu'on a, c'est qu'on a une horloge vide. Un système qui ne fait rien, jamais, ça existe évidemment en signal, c'est le nil. Mais par contre, on n'a pas de top, on n'a pas le contraire, on n'a pas d'horloge tout le temps présente, hein. On n'a pas de notion d'horloge maîtresse. Donc il n'y a pas de top en signal. On a des égalités d'horloge, on a l'infimum ou l'inclusion, on a le suprémum, et on a la différence, on n'a pas de complément à une horloge pour la même raison qu'on n'a pas de top. Et on a quelque chose qui est de nature différente, donc ça c'est presque une algèbre booléenne, hein, un peu affaiblie, et on a quelque chose qui est de nature différente, et qui est évidemment l'évaluation d'un prédicat sur des signaux de type quelconque, numérique ou quel qu'il soit. Et on a besoin de ça. Donc, pour les premiers, le premier bloc, c'est du presque booléen. Et par contre, ça demande un traitement spécial. Pourquoi ? Parce que, en un certain sens, du point de vue du calcul symbolique sur les horloges qu'on est capable de faire, on est obligé de considérer, par abstraction, par suite d'abstraction, que X et Y sont, en première approximation, complètement non contrôlés. Et par conséquent, ça induit que l'horloge qui résulte de cette évaluation est elle-même non contrôlée et ça demande un traitement spécial. Donc je vais expliquer ce traitement-là. Donc ça, c'est un des algorithmes importants du compilateur signal. Et donc ça vous dit un petit peu comment on travaille ici. On a une horloge qui est le résultat de l'évaluation d'un prédicat sur deux signaux qui sont à l'horloge H eux-mêmes. Donc, cette horloge-là, elle va être moins fréquente, ça va être un sous-échantillonnage de H sur événement, dépendant de cette condition-là, et on la place en dessous dans une structure hiérarchique dans laquelle on cherche à ranger toutes les horloges. Là, j'en ai mis une autre, de même nature, et là, j'explique un petit peu ce qui se passe quand on a une expression d'horloge, c'est-à-dire avec les instructions pseudo-booléennes. On est capable de fabriquer d'autres horloges qui sont fabriquées à partir de cette horloge-là et de cette horloge-là. Alors, cette horloge-là est elle-même placée au même endroit. Et évidemment, du coup, vous voyez tout de suite, quand je me mets à écrire quelque chose comme ça, qu'il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent. Premièrement, ça, c'est de la syntaxe. Et pour en faire quelque chose de sémantique, il faut manipuler des formes canoniques. Donc, il y a plusieurs types de formes canoniques dans le compilateur signal, c'est des BDD qui sont utilisés pour avoir une forme canonique, pour être capable de comprendre de manière unique si on a affaire à la même horloge exprimée de manière différente, et donc la placer au même endroit. Et évidemment, on cherche à placer une expression d'horloge le plus bas possible dans la hiérarchie pour être le plus précis au niveau de l'implication des boucles IF. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on se trouve avec un certain nombre d'arborescences, d'arbres, comme ceci, qui sont éventuellement chapeautés, donc on a une forêt en général, qui sont éventuellement chapeautés par un ensemble de contraintes entre horloges des types 1 à 4. Il n'y a plus de... Celles-là sont entièrement réglées par les cônes qui sont en dessous, les triangles, les arborescences qui sont en dessous. Donc au-dessus, vous avez des contraintes d'horloge qui codent le non-déterminisme qui peut rester dans le programme. C'est typiquement le cas de figure où on a deux horloges maîtresses dont on ne sait pas comment elles sont synchronisées. On peut éventuellement juste savoir qu'une est contenue dans l'autre ou bien qu'elles sont étrangères l'une à l'autre, mais on ne sait rien de plus. D'accord ? Donc dans ce cas-là, ces contraintes de type pseudo-booléen sont conservées à part. Et ça, c'est le résultat d'une étape de traitement. Je ne sais pas si Thierry... On ne verra pas d'exemple assez compliqué pour voir ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on veut produire du code séquentiel, il nous faut fabriquer une horloge de base pour ce programme. Et ça, c'est simplement le résultat de la bande supérieure des diverses horloges qui sont représentées ici, plus des expressions en fonction de l'horloge de base et d'un certain nombre de signaux qu'on rajoute, qui sont des démons, qui permettent d'exprimer chacune des horloges qui se trouvent au sommet ici en fonction de nouveaux signaux booléens qu'on introduit. Donc c'est tout ce travail-là à faire, donc, qui est une résolution de système d'équations booléens et la paramétrisation de toutes les solutions. Au passage, on résout tous ces problèmes-là avant d'engendrer donc, le code séquentiel, si on veut. Cette forme-là peut éventuellement aussi servir à engendrer du code réparti. C'est de cette forme-là qu'on part pour engendrer du code distribué, mais je ne parlerai pas de code distribué aujourd'hui. Donc, un point que je voulais mentionner, qui n'a pas vraiment été exploré dans le compilateur signal, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux que ce qui a été fait. Vous voyez bien que j'ai parlé plusieurs fois de... Il y a une chose qui est vraiment caractéristique de signal, c'est la création de ces hiérarchies d'horloges qui traitent le problème spécifique de l'évaluation et du placement des prédicats. Pour le reste, le traitement des contraintes de synchronisation d'horloge, il peut être mis de côté, considéré comme un problème spécifique à part. Et une fois qu'on a engendré des obligations de preuve, ben on prouve ces obligations avec la technologie qu'on a sous la main. Et donc, Signal en a utilisé une, mais on pourrait faire autre chose. Et donc, je vais dire quelques mots sur ce à quoi on pourrait penser. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est un rappel, j'en ai déjà parlé. Et donc, les équations qui impliquent ces prédicats, ben, il y en a quelques-unes qui peuvent nous embêter. Par exemple, voici un exemple de choses qu'on rencontre de temps en temps. Donc, le truc a besoin que, lorsque x est positif, ces deux équations, cette horloge-là, soient présentes. Et x, z et y sont des quantités réelles. Donc, dans la version de base de signal, un programme comme ça, comme x, y et z sont considérés comme non contrôlés au niveau d'abstraction où on raisonne, ce programme est rejeté. Bien entendu, si on est capable d'utiliser de l'analyse statique ou d'utiliser un solver SMT plus puissant, on peut éventuellement aller plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de ranger ce problème à part et de le régler avec plus ou moins de puissance selon ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, c'est un peu la conclusion. Donc, au point où j'en suis, normalement, je te passe la main. Et on va vous illustrer certains des aspects de ce que je vous ai montré. Ah, pardon, oui, j'ai été trop vite. Alors, attends, je voulais montrer le programme. Attends, je vais introduire l'exemple brièvement. Donc, voilà l'exemple, la démo que va vous faire Thierry. C'est un exemple qui est un peu hétérodoxe pour les langages synchrones, puisqu'il comporte de l'accélération interne non bornée. Hein? Donc, dans ce programme, on a une équation du second degré et on lui fournit des séquences de valeurs pour ABC. Donc, on a trois streams de la même horloge qui sont fournis et on calcule par le calcul du discriminant la racine carrée par une méthode itérative qui est écrite ici. Donc, c'est ça qui va créer la boucle d'accélération interne et c'est ça qui va vous créer l'échantillonnage, le suréchantillonnage. Et là, maintenant, je te laisse. Voilà. Ah.
Voilà. Donc, effectivement, pour ce programme, je vais montrer ici une vue globale du programme correspondant en signal sous l'environnement polychronie. Donc, pour un triplet d'entrée ABC, les sorties X1 et X2, les signaux de sortie X1 et X2 vont porter les solutions calculées ou bien ne seront pas définies lorsqu'il n'y a pas de solution ou lorsqu'il y en a une infinité. Et ces cas particuliers seront désignés au moyen d'un booléen de sortie supplémentaire. Alors, on voit ici à gauche la structure fonctionnelle du programme sous une forme arborescente. Alors, on ne va pas regarder précisément le programme, mais juste noter que le processus dans lequel va s'effectuer l'itération pour le calcul de la racine carrée du discriminant est enfoui quelque part dans la profondeur de cette structure. Alors, je vais utiliser ici, je vais compiler, c'est la compilation, en fait, qui va nous permettre de passer de la structure fonctionnelle, de l'architecture fonctionnelle de départ, à la forme de graphe de causalité organisé autour de la hiérarchie d'horloge qu'on a vu précédemment. Donc là, je vais compiler ce programme en mode interactif qui permet de suivre les différentes phases de la réécriture, puisque, on l'a un petit peu vu, la compilation peut être vue comme une suite de réécriture du programme source. Donc ici, j'ai appelé le compilateur qui, après les phases classiques d'analyse, va associer une horloge à chacun des signaux du programme sous une forme dite basique. Voilà. Alors, on a effectivement ici un ensemble de variables d'horloge qui est, pour l'instant, totalement plat. Alors, je poursuis la compilation. Les fonctionnalités ou les transformations qui apparaissent en vert, ici, sont celles qu'il est possible d'appliquer à une étape donnée. Alors ici, je vais appliquer la transformation basique vert poly, polychrone, qui correspond précisément à l'application du calcul d'horloge et du calcul du graphe de causalité. Et à chaque étape de la compilation, on peut visualiser le résultat de la compilation, on peut observer le résultat de la compilation sous forme de visualisation graphique ou sous la forme d'un programme signal réécrit. Ainsi, ici, on voit la hiérarchie d'horloge qui a été synthétisée par le calcul d'horloge avec une racine qui est l'horloge d'un certain signal dénommé stable. Et c'est précisément l'horloge qui rythme les pas successifs de l'itération dans le calcul de la racine carrée. Et on peut voir ici, par exemple, que l'horloge du signal d'entrée A, qui est d'ailleurs aussi celle de B et C, est une sous-horloge de cette horloge racine. On a donc un exemple, un cas de figure où on a une horloge maîtresse interne qui est donc plus fine que l'horloge des entrées. Alors on peut aussi visualiser l'ensemble du graphe de causalité organisé autour de la hiérarchie d'horloge en rouge et en vert qu'on vient juste de voir, avec associé à chacune des horloges la classe d'équivalence des signaux qui sont précisément définis à cette horloge. Alors, pour aller vers la génération de code, et ici en particulier, je vais juste aller vers du code séquentiel, je vais passer plus vite les étapes ultérieures dans la mesure où le programme est endochrone, c'est-à-dire que sa hiérarchie d'horloge a une racine unique. Donc, je vais appliquer les transformations polychrone vers endochrone, puis endochrone vers booléen, où les opérateurs sur horloge sont transformés en opérateurs booléens. Et je vais juste montrer ici le programme signal réécrit où une abstraction du processus a en outre été calculée, rendant explicite, comme on l'a vu tout à l'heure avec Albert, les relations de dépendance et les relations d'horloge sur les signaux d'entrée-sortie. On a donc de cette manière une forme, une notion d'interface de synchronisation qui est notamment utile pour la compilation modulaire. Et on pourrait voir aussi, si on allait voir plus précisément ce programme réécrit, l'ensemble de la hiérarchie d'horloge explicitée, ainsi que tous les calculs des différents signaux et horloges. Et j'en arrive à la phase de séquentialisation qui vérifie en particulier l'absence de vrais cycles de causalité entre les signaux et qui va renforcer les dépendances entre les signaux de manière à les séquentialiser. Enfin, l'étape finale est la production de code, C par exemple. Et je voudrais simplement montrer très rapidement le code correspondant à un pas de calcul qui est, vous voyez, structuré en if imbriqué correspondant précisément à la structure d'horloge. On voit par exemple, on a un test sur stable, etc. Et on peut aussi observer que, contrairement à ce qui est souvent dit du code généré pour les programmes synchrones, on n'a pas simplement lire les entrées, effectuer les calculs, écrire les résultats, puisque chaque action est effectuée à son horloge. Oui, donc en particulier, on a ici le test pour savoir si on lit ou non chacune des entrées. Et idem pour les sorties, idem pour chaque calcul qui est effectué en testant la présence de son horloge. Alors, on va repasser à la suite de l'exposé. Oui.
Voilà, vous m'entendez bien? C'est bon? Bien. Donc, voilà. Alors, jusqu'à présent, je vous ai raconté des choses qui existent à propos de Signal, et là, c'est plutôt de l'ordre de la spéculation, ce que je vais vous raconter, mais je pense que c'est une spéculation qui a du sens, et qui est aussi une façon, pour les informaticiens qui ne sont pas numériciens, de comprendre un peu ce qu'il y a de nouveau dans des langages de modélisation physique comme Modelica. Hein, donc, ça va être une façon. Alors, on va vieillir encore un petit peu la montre Signal pour passer à cette bête-là. Alors, j'ai changé un peu le style de spécification. Vous voyez que ça, c'est une vieille horloge, donc il y a des poids. Et quand les poids ont fini de faire leur chemin, bah, il faut les remettre à leur place de départ. Alors, comment j'ai spécifié ça ? Ben, ce que j'ai écrit dans la première équation, c'est que le temps passé est proportionnel avec un certain coefficient entre le changement de position des poids. Hein, vous voyez que H, c'est la hauteur du poids de référence, hein, et que le temps qu'on a passé et qui a permis de bouger les aiguilles là, il est proportionnel au parcours effectué par le poids. Ça, c'est ma première équation. Ma deuxième équation, elle dit que bah, finalement, le poids il descend à vitesse constante, tant qu'il n'a pas touché le fond. Et ma troisième équation, elle dit qu'on bah, remonte les poids par une quantité qui est rentrée manuellement lorsqu'on a touché le fond. Hein, donc c'est un style un petit peu différent du style de programmation en Signal. Donc T, c'est le temps. Là, on a la hauteur du poids et la valeur qu'on donne à H au moment du reset. Alors maintenant, on a des choses qui sont de nature différente, parce qu'ici, on n'a plus des expressions de type fonctionnel pour les données. Pour les données aussi, on a des équations. Hein, donc je suis allé un pas plus loin. On est plus équationnel qu'en Signal, parce que les quantités numériques deviennent aussi soumises à des contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça ? L'intérêt, vous avez demandé quel est l'intérêt de faire un truc pareil ? Et en fait, peut-être que vous le percevez un petit peu, c'est vraiment la façon de modéliser un système, quand il y a de la physique dedans, comme c'est le cas là, à partir des principes premiers de la physique, qui sont en général des lois d'équilibre. On a des lois, on applique ces lois, hein, si vous décrivez un circuit en SPICE, c'est cette activité-là que vous faites. Hein, c'est-à-dire que vous écrivez des équations d'équilibre, il y a la loi des nœuds, il y a les lois d'Ohm, plus chaque composant a une certaine équation qui relie le voltage et l'intensité, et il n'y a pas de notion d'entrée et de sortie. C'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est exactement le style de programmation que j'ai adopté. L'intérêt de ce style de programmation, c'est qu'il est beaucoup plus compositionnel qu'une programmation plus traditionnelle à la Simulink ou à la Lustre ou même à la Signal. Hein, parce qu'on prend des contraintes et les contraintes, ça s'assemble sans aucune précaution. Quand vous faites... Oui ?
Pourquoi avez-vous besoin de T et de H à la fois ? H, c'est virtuellement le temps.
Je suis d'accord que la première équation qui relie T et H est un peu gratuite. Elle est là pour illustrer mon propos plutôt que... Je suis d'accord. Oui, on pourrait s'en dispenser parce que... Mais elle est effectivement très simple. On aurait pu dire que c'est la même chose. Mais bon, c'est pour la commodité. Alors, comment est la question, c'est maintenant qu'on a ce nouveau style de programmation, comment on l'analyse ? Ben d'abord, à quoi a-t-on affaire ? On a affaire à des équations gardées, E1, E2, E3, qui sont ces choses-là à gauche. C'est gardé, soit c'est toujours valide, soit c'est valide sous condition. Hein, donc, c'est ça qu'on a. Alors là, quel est l'objet qui va remplacer l'analyse de causalité ? Parce que comme il n'y a pas d'évaluation d'expression, il n'y a pas de notion de dépendance qui va naturellement avec ce type de programme-là. Donc ce qui le remplace, c'est une chose qui est beaucoup utilisée en calcul scientifique, hein, qui est le graphe d'incidence, qui va avec l'utilisation des matrices creuses. Et ce graphe d'incidence vous dit par exemple que l'équation E1, elle implique deux inconnues qui sont la prochaine valeur de t. Alors t n'est pas une inconnue parce qu'on l'a évaluée au coup précédent. Et la prochaine valeur de h. Pareil, h n'est pas une inconnue. Donc E1 est lié et fait intervenir ces deux inconnues. E2 fait intervenir uniquement next h, mais uniquement sous condition. Et E3 fait intervenir next h et in uniquement sous la condition complémentaire. Alors, comment on analyse ça? Eh bien, la technique d'analyse consiste à chercher ce qu'on appelle un matching, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, une association, qui consiste à chercher quelle équation on peut utiliser. C'est une méthode de pivotage, hein, pour ceux qui seront des rappels en algèbre linéaire. C'est-à-dire, on cherche à comprendre quelle équation on a envie d'utiliser pour évaluer quelle variable. Et ce qui est important, c'est de trouver le matching qui va vous dire de manière unique une association d'une équation unique à chaque variable sans qu'il y ait de partage. C'est ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que nextT est évalué en utilisant E1, nextH est évalué en utilisant E2, nextH est aussi évalué en utilisant E3, mais on a deux gardes complémentaires. Donc, ça va bien. Donc, on a trouvé là le matching gardé, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, on peut retrouver, resynthétiser une causalité, mais qui ne vient pas de la syntaxe d'origine du problème, qui vient de l'analyse qu'on vient de faire. C'est donc plus profond. Alors, comment ça se présente? Ben, finalement, puisque nextT était attaché à E1, on calcule nextT à partir de E1, et nextH, du coup, apparaît comme une entrée de cette équation. Et même chose pour les autres. On a nextH qui va être évalué à partir de E2, il n'y a pas d'entrée, et dans ce cas-là. Et ici, on a nextH qui est évalué à partir de E3 avec l'entrée in, dans le cas complémentaire. Alors, est-ce qu'on est... Évidemment, là, vous allez dire que je vous vends du poisson pas frais, parce que si j'avais affaire à des équations booléennes, je n'aurais pas le droit de faire ce type de raisonnement, ça n'aurait pas de sens. Donc, ce type de raisonnement est valide dans certaines classes d'équations qui sont intéressantes, et qui sont décrites ici. Donc, on a une notion d'équation avec des variables que je qualifierais de scalaires, des variables numériques scalaires, et les équations possèdent une espèce de notion de dimension. Donc, si l'équation est scalaire et qu'il y a la variable x qui apparaît de manière non triviale dans C, alors il existe un solveur qui, génériquement, est capable d'utiliser cette équation pour évaluer x si on lui donne les valeurs des autres variables. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Et ça, c'est une situation qui se produit effectivement lorsqu'on a affaire à cette classe d'équations algébriques où x, y, z sont des réels, des quantités numériques, et c sont des fonctions, des expressions régulières, convenablement continues. Hein, et la validité de ça est assuré par le théorème des fonctions implicites, hein, qui vous dit exactement ce que je me suis permis de dire au-dessus. Donc il y a un domaine, on ne peut pas faire ça avec tout type d'équation, mais si on a affaire à des équations de type numérique, alors on peut appliquer ce type d'abstraction, et encore une fois, tout le calcul, le HPC, dans le cas des matrices creuses, fait un usage extensif de ce type de technique symbolique qui est un pré-calcul avant qu'on fasse numériquement les évaluations. Ça permet de réduire considérablement les complexités. Bon, ça a l'air facile ce que je vous ai raconté, mais je vais vous sortir un autre exemple qui vous montre que c'est moins trivial qu'il y paraît. Voilà un exemple plus intéressant qui est un embrayage à deux disques. Donc, voyons voir ce que ça donne, et ça va vous montrer qu'en fait, passer de la classe signal à cette classe signal plus qui est plus relationnelle et un vrai pas en avant en matière de difficulté. Alors regardons un peu comment on va modéliser l'embrayage. Alors le premier cas de figure, les deux disques ne se touchent pas et par conséquent on a affaire à deux disques libres qui tournent autour de leur axe et on a donc deux systèmes d'équations, donc une dynamique du disque qui vous dit comment la vitesse de rotation évolue en fonction du couple qui lui est appliqué. Et puis par ailleurs, comme il n'y a pas de force externe qui est mentionnée et que les disques sont libres, il n'y a pas de couple appliqué. Et puis vous avez la même chose indépendante, donc on a deux systèmes indépendants qui n'interagissent pas. Quel est le modèle de l'embrayage quand il est engagé ? C'est-à-dire où les deux disques sont au contact, on a les deux mêmes équations ici, mais par contre, là, on a autre chose. Évidemment, les deux disques tournent à la même vitesse et le principe d'action-réaction vous dit que les deux couples s'annulent. Comment on a envie de spécifier tout ça en un seul programme ? C'est facile, on fait comme si on était en signal. On utilise des contraintes gardé par des horloges. C'est ce que j'ai fait là. Voilà. Donc vous avez le modèle de cet embrayage avec cette méthode. Alors regardons un peu qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment on peut exécuter ça. Alors à chaque réaction, donc on est en temps discret, c'est une approximation discrète du vrai modèle physique, et à chaque réaction, on doit évaluer les nouvelles variables, les variables libres du système, qui sont ces quatre-là, les prochaines valeurs des vitesses et les valeurs courantes des couples. Et on doit l'évaluer en utilisant ce qu'on sait sur les états et les entrées, s'il y a des entrées. Là, en fait, l'entrée unique, c'est le booléen qui dit quand j'ai pressé sur la pédale ou j'ai pas pressé sur la pédale. Alors, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand on regarde ici, dans le cas engagé, il y a un problème, c'est que là, on a une contrainte qui n'est pas une contrainte qui porte sur des inconnus, puisque V1 et V2, ils ont déjà été calculés. Donc c'est un fait. Et ce fait, il a deux états. Soit il est vrai, soit il est faux. Mais c'est un fait. Et en tout cas, j'y peux rien. Et je ne peux pas faire une évaluation qui permette de satisfaire cette équation. Donc il va falloir étudier ce qu'on fait face à cette difficulté-là. Et maintenant, dans le mode engagé, du coup, comme cette équation, elle ne me sert à rien, puisqu'elle ne fait pas intervenir les variables que je dois évaluer, eh bien, je me retrouve dans le mode engagé avec 2 plus une troisième équation et 4 variables. Et comme je suis dans un monde numérique, 3 équations, 4 variables, il n'y a pas le compte. Je suis incapable de déterminer les valeurs de mes 4 variables. Alors que pourtant, je sais, par expérience physique, je sais que mon système devrait être parfaitement déterministe. Donc, qu'est-ce qui manque ? Alors, donc on va examiner de plus près. Il y a deux cas à distinguer. Le premier cas de figure, donc je m'intéresse au cas où on est engagé, parce que c'est le cas qui est compliqué, et je regarde deux cas de figure. Soit j'étais déjà engagé le coup d'avant, c'est-à-dire l'embrayage était déjà engagé. Dans ce cas-là, V1 et V2, c'était sympa, c'était un fait, puisque j'étais engagé, donc V1 était déjà égal à V2, donc du coup, ceci ne me dérange plus. Et comme on est dans une phase qui continue où l'embrayage est engagé, eh bien, au coup suivant, cette équation reste valide. Donc je reste engagé. Et maintenant, si vous regardez, sous le mode engagé, je me trouve avec 1, 2, 3 et 4 équations, et je peux faire ma résolution et je suis satisfait. Et la technique qui consiste à rajouter cette équation bleue en raisonnant sur le fait qu'on a des systèmes qui sont invariants dans le temps et qu'on peut donc shifter des équations, c'est légitime, c'est redondant, on n'a pas changé le système, on n'a rien rajouté comme contrainte sur les suites. De même que si on était en temps continu, on pourrait différencier une contrainte. Si une contrainte est satisfaite pendant un intervalle de temps, eh bien, sa différenciation l'est aussi. Et donc ça, c'est connu dans le monde des équations différentielles algébriques comme le mécanisme de réduction d'index, et c'est un mécanisme qui permet de faire apparaître ce qu'on appelle des contraintes latentes ou contraintes cachées. Je vous ai montré un exemple là. Mais c'est pas le seul cas. Il y a un cas qui est plus embêtant, c'est le cas où on vient de changer de mode, c'est-à-dire qu'on vient d'appuyer sur la pédale, donc on est engagé maintenant, mais le coup précédent, on ne l'était pas. Donc si le coup précédent, on ne l'était pas, ben ça, ce fait-là, n'était pas satisfait. On ne peut pas espérer que, par hasard, les deux disques qui évoluaient librement évoluaient à la même vitesse. Il n'y a pas de raison, on n'a pas le droit de supposer ça. Donc là, on est devant une impossibilité, et donc il y a deux façons de réagir face à cette situation. La première, c'est de dire ben, « je rejette le programme ». Ce serait logique, hein, parce que d'une certaine manière, on n'y peut rien, et ce cas-là ne peut pas être satisfait. Alors, si vous avez en tête le fait que là, on a en gros un programme qui est une approximation discrète d'un système en temps continu, du coup, il y a une tricherie qui devient légitime et qui l'est vraiment quand on passe en temps continu, qui consiste à dire ben, je vais faire une petite modification de mon programme. Donc, d'une certaine façon, ce qui serait légitime de la part du schéma de compilation, c'est de proposer, de retourner à l'utilisateur une proposition de modification que le compilateur considérait comme mineure à faire valider par l'usager. Et là, cette proposition, ben, puisque cette contrainte-là est falsifiée, ben on va demander au système de patienter un petit peu et on va lui dire ben, « tu feras ça qu'au coup suivant ». Pour l'instant, on va ignorer cette contrainte. Donc, c'est une modification du code source, mais cette modification du code source intervient pour un instant sur une horloge, disons idéalement assez fréquente, et donc on considère que ce n'est pas grave. Et si on était en temps continu, grosso modo, on fait une modification de temps zéro, et donc qui est sans impact du point de vue du temps continu. Donc, on la retire, et de nouveau, on se trouve avec une situation avec le nombre d'équations qu'il nous faut, et voici la structure du code. Donc là, on a le code séparé dans chaque mode, et celui qui nous intéresse, c'est le code au moment de la transition de mode. Et là, vous voyez apparaître quelque chose qui est de nouveau un point fondamental qu'on ne voit pas du tout en programmation fonctionnelle. D'habitude, en programmation fonctionnelle, ou impérative, enfin en langage synchrone, quand vous changez de mode, vous dites, c'est une partie de la spécification, vous dites ce qu'on fait au redémarrage. Toujours. Hein, quand on préempte quelque chose, on dit où on repart. Ici, on n'a pas fait ça. J'ai donné des systèmes d'équations, et ce que vous pouvez constater ici, c'est que le code qu'on a engendré au moment du changement de mode, il est synthétisé par le compilateur. Et si on demandait au programmeur de trouver à la main, de programmer lui-même les valeurs de réinitialisation de la dynamique quand on passe de ce mode-là à ce mode-là, ben il ne saurait pas le faire. Ou ça serait une tâche particulièrement difficile. Donc c'est important de considérer que ça fait partie de la tâche de compilation. Donc ça, c'est une difficulté fondamentale supplémentaire qu'on rencontre dans ce cadre-là. Donc voilà, brièvement, les conclusions. Donc, sur la dernière partie de l'exposé, bon, je ne sais pas si des langages synchrones, donc purement temps discret, à contrainte de ce type-là ont un intérêt, mais d'une certaine manière, au minimum, ils servent à vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de différent quand on passe d'un langage de type Simulink qui a des ODE et des parties discrètes à un langage de type Modelica qui comporte des DAE, c'est-à-dire des contraintes, plus des changements de mode. Ça vous permet de laisser les difficultés numériques de côté et de vous concentrer sur les aspects compilation qui sont posés par ces formalismes. Voilà.
Moi, j'aurais une remarque sur les calculs d'horloge et tout ça. Il y a effectivement un point commun, c'est qu'il y a deux méthodes. La méthode lustre qui consiste à dire « je veux que ce soit le type-checking qui vérifie les choses ». Et parce que le type-checking est facile, quelque part, est fort, et la méthode est SRL ou signal qui dit exactement. Je pousse le problème sur un prouveur.
Exactement.
Par exemple, moi je dis on sait prouver la constructivité, mais parce que on le sait, on peut le faire parce qu'on a des prouveurs qui viennent d'un autre monde.
Exactement.
Hein, ça c'est la vraie raison. Donc effectivement, en SRL on fait exactement la même chose, c'est-à-dire on a quand on fait abort, suspend et tout, c'est du calcul d'horloge qu'on fait.
Exactement.
On les appelle pas comme ça, mais c'est exactement la même chose. Et on va prouver la consistance de tout ça dans les systèmes. Alors, l'US peut aussi faire appel à ces systèmes. Et là, c'est un problème assez majeur qu'on a beaucoup discuté récemment. C'est qui doit faire le boulot ? Est-ce que c'est le fabricant du compilateur ou est-ce que c'est l'utilisateur pour savoir la correction ? Donc, le calcul d'horloge de l'US, qui n'est d'ailleurs pas implémenté dans Scale, mais c'est autre chose. Enfin, il est implémenté, mais à l'intérieur, consiste à dire c'est au programmeur de s'assurer que c'est correct. Et il y a deux réponses possibles. Donc, il y a celle-là, qui est très bien pour les systèmes certifiés,
oui.
Parce que les programmeurs ont besoin de justifier que leur système est correct de façon liée à la spec, ou alors la méthode vérification qu'on emploie, nous, dans STRL, où on passe ça à SMT ou à SAT, et on a un coup de bol, c'est que SMT et SAT, ça marche. Hein, ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que quand on a commencé, ce n'était pas vrai, ça ne marchait pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est une discussion éternelle qui n'a pas de...
Il y a des pour et des contre, il n'y a pas de réponse définitive.
Après, c'est une question de préférence. Moi, je préfère... Moi, je suis toujours considéré que mon boulot, c'est d'être simplifié sur l'utilisateur.
À ceci près, il y a juste un point que tu caches sous la table. C'est qu'à ceci près, quand un système n'a pas de solution, tu ne sais pas où est l'erreur de spécification.
Alors, si... C'est alors, dans STRL, si.
Dans STRL, tu arrives à...
Ah oui, dans STRL, quand un système est, par exemple, non constructif,
ouais.
On sait exactement dire pourquoi. Et ça, c'est fondamental.
Oui, mais la question, ce n'est pas dire pour toi, c'est est-ce que tu sais suggérer au programmeur quelle est la bêtise qu'il a faite ? C'est ça qui est le truc qu'on ne sait pas dire.
Non, parce que, par exemple, savoir où démarre un cycle, ça n'a pas de sens.
Oui.
Non, je sais exactement montrer où est le problème.
Voilà.
C'est fondamental.
Tout
si tu dis, si tu dis votre problème n'est pas correct, bon, on travaille, nous, avec des programmes de 20 000 lignes de code couramment. Donc,
oui.
Si on dit non, ce n'est pas bon, ça ne va pas. Donc, l'aspect des bugs symboliques est absolument fondamental.
Oui, oui.
Et, par exemple, les SMT nous donnent des... Le point fondamental des prouveurs modernes, c'est pour ça que j'ai fait ce cours il y a 2 ans, c'est quand une propriété est fausse, il donne un contre-exemple. Le plus grand étant le record du contre-exemple ayant été battu par Laurent Simon il n'y a pas si longtemps, où un théorème de maths a été posé sous une conjecture d'R2 très dure, a été posée sous la forme d'un problème SAT, dont il fallait montrer qu'il était insatisfiable. Et il y a des systèmes SAT qui disent c'est insatisfiable, et ça, c'est pas suffisant. Glucose, le système de Laurent, produit, qui nous a fait un exposé là-dessus, produit une preuve qui est assimilable par un système de vérification de preuve, et cette preuve fait 20 teraoctets. Donc, c'est la plus grosse preuve mathématique jamais construite sur un problème réel. Et c'est assez rigolo. Mais ça prouve qu'on peut aller extrêmement loin. Donc, le problème, c'est d'arriver à tracer la cause de la preuve,
oui,
mais tracer la solution, j'y crois pas. C'est comme quand un théorème de maths est faux, tu peux expliquer où est la faute, mais expliquer où est la correction, ça, personnellement, j'y crois pas.
Mais du coup, des fois, c'est pas facile pour le programmeur de corriger. Quoi.
Oui, moi, je voulais revenir à la montre du début. Je suis très surpris parce que dans la spécification initiale, vous ne parlez pas de H.
Oui, c'était
et
exact.
Vous l'introduisez...
C'est pour la commodité de l'exposé. Le compilateur n'introduit pas ce genre de choses.
Or, H, la montre, elle est quand même censée donner l'heure. Donc, les caractéristiques du H sont importantes.
Non, rien n'aurait changé si j'avais choisi une des horloges. Pardon.
Oui.
Si j'avais choisi une quelconque des horloges qui sont là et je l'avais mise ici à la place.
Oui, mais...
C'est tout.
Il y a la continuité. L'horloge donne constamment l'heure. La pendule elle donne constamment l'heure.
Ah non, attention. Non.
Sinon, ce n'est pas une pendule.
Non, attention. On n'est pas en temps réel physique. On est en temps discret logique.
Oui.
Il n'y a pas de notion de temps métrique en langage synchrone. Hein. Ça, c'est commun à tous les langages synchrones.
Oui.
On a un temps multiforme, c'est-à-dire n'importe quoi peut être compté et donne lieu à du temps. n'importe quel type d'événement. Et là, H, c'est des temps logiques, c'est une suite de tics. Ça peut être des secondes, ça peut être des heures, ça peut être des mètres, ça peut être n'importe quoi.
Ça a une incidence, parce que vous ne pouvez pas avoir de trop, puisque c'est une horloge.
Mais non. Ah non, ça peut être de compter des événements, ça peut compter
vous
des événements qui sont sporadiques.
Des petits points à un moment.
Non,
il y a encore une question que je voudrais poser, c'est le remontage.
Oui.
Vous supposez dans votre texte que vous remontez en un tic.
Oui, j'abstrais le temps que ça prend.
Moi, je vous mets au défi sur votre montre de remonter la montre en une seconde.
C'est aussi l'idée des langages synchrones, c'est-à-dire qu'on avance par réaction et que le temps que prend une réaction est un problème dont on s'occupe à part. Il y a d'abord l'aspect logique.
Un temps pour leur montage et un temps pour c'est ce qui se passe sur les vrais montres, et un temps pour l'avancement.
Oui, mais
on
non,
pourrait.
Non, attends.
Alors,
François.
Vous auriez à ce moment-là deux espaces temporels.
Mais François, c'est pas ça. Le temps que mesure l'horloge, c'est le temps que montre l'horloge, c'est pas le temps physique.
Oui.
C'est ça l'idée.
Absolument.
L'idée de ce modèle-là, et c'est assez vrai des horloges, parce que les vieilles horloges n'ont jamais mesuré le temps. Elles mesurent le temps à beaucoup près. Et quand elles sont arrêtées, elles sont arrêtées, si tu veux. Elles ne mesurent plus le temps. Donc elles ne mesurent pas le temps physique.
Mais pendant que tu la
elles mesurent l'aiguille.
Pendant que tu la remontes, elles continuent à donner.
Ah non! Pas les horloges à poids.
Ah, si.
Ah ben non, les horloges à poids, j'en ai une. Les coucous, ils n'ont pas. Si, il faut qu'ils ressortent à l'intérieur, mais les vieux coucous, non, ils sont arrêtés.
Mais non.
Quand le poids est en bas, ils s'arrêtent.
Si cette montre-là.
Recherche leur sort.
Attends.
Non, mais les vieilles horloges n'avaient pas. Les premières horloges. L'horloge de Dunstable 1283, celle qui a introduit la notion de tic-tac. Eh bien, désolé, quand le poids est en bas, il s'arrête.
C'est vrai.
Et ma montre aussi s'arrête.
Mais non, mais c'est ça qui modélise. Oui. Mais si tu veux, ça spécifie le mouvement des aiguilles d'une horloge. Donc ça ne mesure pas les secondes, ça mesure le mouvement d'une horloge. Ah, ben c'est autre chose, ça. C'est pas le même problème.
C'est autre chose.
Tout à fait. Alors, dater le mouvement d'une horloge, ça, c'est compliqué. Hein. Eh bien, la notion de date n'existe pas en physique, donc c'est assez compliqué, mais ça peut se faire, bien sûr. Oui.
J'ai une petite précision à demander entre langage fonctionnel et langage réactionnel. Parce que vous avez mentionné qu'une fonction est différente d'une relation. Je ne sais pas si j'ai bien saisi.
Une fonction est
Entre la différence entre une fonction et une relation. Pour moi, c'est presque pareil. Mais vous avez l'intention de dire que c'est différent.
Alors, oui et non, et ça dépend des domaines. C'est-à-dire que, une fonction, on sait que c'est une fonction, et quand elle est totale, on lui donne des entrées, elle rend un résultat unique.
Ça, c'est vrai.
Bon. Les relations, ça dépend. C'est-à-dire, là, j'ai expliqué le cas de figure des relations numérique dans un monde numérique et dans le cas où elles sont régulières, où on se rapproche d'une situation comme ça avec la notion de dimension, c'est un peu compliqué. En général, une relation, ça ne définit pas forcément une fonction une fois qu'on a choisi des entrées et les autres sont des sorties. Alors, c'est absolument pas vrai en boulet, hein, par exemple. Tout ce que je vous ai raconté à la fin de mon exposé, si vous vous mettez dans des domaines booléens, ça s'écroule. Ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens.
OK. La deuxième remarque, vos horloges là m'ont fait inspirer le cas où les vitesses, les ne tournent pas dans le même sens. Par exemple, l'autre est tout le cycle des 8, mais au lieu de tourner dans le même sens, il tourne dans les sens différents.
Peut-être.
Qu'il faudrait modifier pour que ça continue à fonctionner?
Je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris la question.
Vous avez des systèmes qui tournent dans le sens des aiguilles du monde, comme vous l'avez fait. Des systèmes qui tournent dans le sens direct, c'est-à-dire contraire au sens.
Peut-être faut-il simplement changer quelques expressions, j'imagine, je ne sais pas.
Ok.
Bon, peut-être qu'on arrête là, Jérôme.
Merci à vous.
Merci.
Merci.